titre de ce 16 juillet, les officiels américains quittent brusquement l'île de Nauru et l'accord migratoire avec l'Australie prévoyant que près de 1200 demandeurs d'asile soient accueillis sur le sol américain est en doute. Le gouvernement fédéral déclare que l'accord tient et tiendra bon. Et puis la conférence du LNP du Queensland a lieu ce dimanche. Et puis l'Espagnol Garbiñe Muguruza gagne le tournoi de tennis de Wimbledon. Des rapports que les officiels américains qui interviewaient des réfugiés sur le centre de rétention de l'île de Nauru ont quitté les lieux brusquement, ce qui met en doute le plan de réinstaller ces détenus aux États-Unis. Mais le gouvernement fédéral déclare que l'accord tient et tiendra bon. Les Américains auraient quitté l'île vendredi, deux semaines plus tôt que prévu. Washington a déclaré jeudi dernier que les États-Unis avaient atteint leur quota de réfugiés cette année. On écoute la ministre australienne des Affaires étrangères, Julie Bishop, sur l'ABC. Elle déclare que l'accord avec les États-Unis tient bon.
We have been given assurances by both President Trump and Vice President Pence and others that the agreement will be adhered to. And the United States, like Australia, has a quota each year for its refugee intake. I understand that the quota has been fulfilled for this year. It kicks over again on the 1st of October. But I have no doubt that this agreement is progressing as the relevant US authority confirmed this morning.
La ministre australienne des Affaires étrangères, Julie Bishop, le porte-parole de l'opposition sur les questions de défense, Richard Marles, parle de manque de leadership de la part du gouvernement fédéral.
The resettlement arrangement in the US is absolutely critical to getting people off Manus and Nauru. The Abbott-Turnbull government has been singularly hopeless in arranging third-party resettlement arrangements for those who have been on Manus and Nauru, and indeed all their eggs now are in the US basket. They need to be looking at a whole lot of other options to make sure that hope and a future can be found for those people who are in those facilities.
Le porte-parole de l'opposition sur les questions de défense. La conférence du LNP, Liberal National Party du Queensland, se tient ce week-end à Brisbane et va considérer formellement de présenter une motion demandant au gouvernement fédéral de se retirer de l'accord de Paris sur le climat. Hier, le LNP a voté une motion pour que les futurs gouvernements de la coalition soutiennent l'industrie du charbon. La pression est sur le Premier ministre Malcolm Turnbull de suivre l'exemple de Donald Trump, le président des États-Unis, et de retirer l'Australie de l'accord de Paris sur le climat. Les facilités de recyclage dans le Victoria vont être revues après l'énorme incendie à Coolaroo jeudi dernier dans un dépôt destiné au recyclage. Un audit va avoir lieu par un task force mis en place par le gouvernement du Victoria. Écoutez la ministre de l'Environnement du Victoria, Lily D'Ambrosio.
Our government is motivated by one thing, and that is to ensure that these occurrences do not happen again. We know that the effort needs to improve.
Voilà la ministre de l'Environnement du Victoria. Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, est dans le Golfe en visite officielle. Il sera à Doha, Riyad, à Koweït et Abu Dhabi. On écoute le ministre français.
Nous sommes préoccupés par la crise qui touche le Golfe. Nous sommes préoccupés par les conséquences politiques, économiques et sociales de cette crise qui intervient à un moment où la région doit construire sa cohésion face à des menaces qui pèsent sur sa sécurité. Et comme vous le savez, le président de la République et moi-même, nous sommes en contact régulier avec l'ensemble des protagonistes. Nous sommes mobilisés pour appeler au dialogue et nous souhaitons adresser un message de concertation et d'apaisement.
Le ministre français des Affaires étrangères, précision sur ce voyage avec Toufik Benaïssouche pour Radio France Internationale.
Nous sommes convaincus de l'importance de mesures de confiance permettant de trouver les modalités concrètes d'une désescalade rapide, car cette crise ne profite à personne, c'est ce qu'a déclaré entre autres le ministre français des Affaires étrangères après une rencontre avec l'émir du Qatar. La France plaide pour que soient levées le plus rapidement possible les mesures qui touchent les populations du Qatar et notamment les familles binationales et les étudiants. Facile à dire, en revanche, difficile à faire. Jean-Yves Le Drian a beau ajouter « Chacun des interlocuteurs m'a assuré de la pleine disposition du Qatar à engager des discussions constructives avec ses voisins pour peu que sa souveraineté ne soit pas mise en cause. Reste que les adversaires du Qatar sont pour le moment intraitables. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte et Bahreïn ont imposé le 5 juin dernier des sanctions diplomatiques, politiques et commerciales au Qatar en l'accusant de soutenir le terrorisme international et de se rapprocher de l'Iran. La France, pour sa part, entretient des relations de proximité avec l'Égypte et les Émirats Arabes Unis, tout en fournissant des armes au Qatar et tout en étant un des alliés des Saoudiens.
Toufik Benaïssouche pour RFI. En Allemagne, la chancelière Angela Merkel déclare qu'elle lutterait pour une Europe encore plus forte si elle est réélue pour un quatrième mandat.
Aber uns ist vielleicht in den letzten Monaten noch mal klar geworden, dass Europa mehr ist.
We've realized in the last few months that Europe is more than just bureaucracy and economic regulation, that Europe and living together in the European Union have something to do with war and peace, that the decades of peace after World War II would have been completely unthinkable without the European Union.
Voilà, c'était la chancelière allemande Angela Merkel. L'OTAN et l'Ukraine ont commencé des exercices militaires. L'opération Sea Breeze de 2017 près de la ville de Odessa dans la mer Noire. 30 bâtiments de guerre prennent part dans cette opération ainsi qu'une vingtaine d'avions de chasse et plus de 3000 soldats venus de 17 pays. Écoutez le lieutenant de l'armée américaine Anna Mansueti.
We are sharing the idea that we want to train side by side so we can enhance our ability to work together, and the goal is to be as safe as possible.
Voilà la porte-parole de l'armée américaine. Cette opération militaire va durer jusqu'au 22 juillet prochain. La Turquie, un an après le putsch raté, et le président turc Recep Tayyip Erdogan promet de, je cite, « d'arracher la tête des traîtres ». Reportage Alexandre Billette pour RFI.
Une foule nombreuse, peut-être plusieurs centaines de milliers de personnes qui vont passer une partie de la nuit sur le pont qui s'appelle justement désormais le pont des martyrs du 15 juillet, avec des drapeaux turcs, des portraits de Recep Tayyip Erdogan, une foule qui a également hué les médias hostiles au pouvoir turc, et qui a aussi scandé à plusieurs reprises, qui a demandé le retour de la peine de mort en Turquie. Ces commémorations vont se poursuivre dans la soirée, toute la nuit même, puisqu'il y aura d'abord à Istanbul une série de prières, des films seront également projetés. Le président turc qui va par la suite annoncer le début des veillées de la démocratie. Ce sont des rassemblements qui vont se dérouler dans tout le pays jusqu'à demain soir. Recep Tayyip Erdogan qui va ensuite se rendre à Ankara pour poursuivre cette nuit de commémoration, puisqu'à 2h32 très précise, il y aura le grand discours du président turc devant le Parlement, et à l'heure précise où le premier avion a bombardé l'enceinte de l'Assemblée nationale il y a précisément un an.
Alexandre Billette pour RFI. À Hong Kong, une marche silencieuse pour rendre hommage au dissident et prix Nobel de la paix Liu Xiaobo, mort jeudi dernier des suites d'un cancer. Ce dissident a été emprisonné depuis 2009 par Pékin pour sa prise de position et participation à la rédaction d'un projet de réforme constitutionnelle. Reportage Florence de Changzi pour RFI.
Ils étaient plusieurs milliers de Hongkongais à avoir renoncé à leurs activités normales d'un samedi soir pour venir rendre un dernier hommage, parapluie dans une main et bougie dans l'autre, au prix Nobel de la paix chinois, Liu Xiaobo, décédé jeudi soir. Le cortège s'est égrené en silence à la nuit tombante sur le parcours d'environ 2 km qui allait de Chatter Garden jusqu'au bureau de liaison chinois, la représentation des autorités chinoises à Hong Kong. À peine une demi-heure après le début de la marche, un incident a failli dégénérer. La police a arrêté un homme qui avait mis le drapeau chinois à l'envers au bout d'un bambou qu'il brandissait, et il avait écrit en caractère noir sur son drapeau partiellement brûlé « La Chine est un pays fasciste qui a tué Liu Xiaobo ». Mais le cortège a vite retrouvé sa solennité. À l'approche du bureau de liaison chinois, la police n'a plus permis qu'à des groupes d'environ 10 personnes de passer à tour de rôle pour s'incliner à 3 reprises devant un autel sur lequel son portrait et des gerbes de fleurs étaient posées.
Florence de Changi pour RFI. Au Sénégal, au moins 8 morts dans une bousculade dans un stade à Dakar hier lors de la finale de la Coupe de la Ligue au stade Demba Diop de Dakar. Lou Garçon est sur place pour RFI. Elle est au micro de Zéphirin Kouadio de RFI.
L'accident a eu lieu un peu avant 20h au stade Demba Diop. Un but venait d'être marqué et selon des témoins, les supporters des deux équipes ont commencé à s'affronter avec des jets de pierres, de projectiles. Il y a eu alors un mouvement de foule et un pan de mur s'est affaissé. Certaines personnes ont été piétinées dans la bousculade. Il y a en tout cas 8 morts, c'est un bilan provisoire et 49 blessés, dont certains graves, et toujours du monde à l'intérieur du stade. Les blessés graves ont été acheminés vers des hôpitaux de la ville, mais certains blessés plus légèrement sont toujours sur place. Il y a encore 30 minutes, des supporters étaient assis par terre au milieu du stade et attendaient d'être évacués. Tension palpable aussi avec des jets d'objets toujours dans certaines tribunes. La police se trouve au milieu du stade pour contenir cette foule encore présente sur les lieux.
Et le ministre des Sports, Lou Garçon, vient d'annoncer qu'il suspendait tous les matchs à venir, y compris les matchs de lutte. Et il va falloir donc à présent établir des responsabilités, notamment en ce qui concerne l'état des infrastructures sur place.
Oui, le stade Demba Diop a été construit dans les années 60. Il y a eu des opérations de rénovation depuis, mais ont-elles été correctement effectuées? Ce qu'il faut savoir en tout cas, c'est que les matchs de football au Sénégal n'attirent pas les sponsors autant que les rencontres de lutte. Et l'une des conséquences de ce manque de moyens, c'est que les stades ne sont pas suffisamment sécurisés. Des témoins sur place m'ont ainsi expliqué que les policiers étaient en nombre insuffisant et qu'ils n'ont en fait pas réussi à canaliser les supporters qui s'affrontaient et jusqu'à ce que se produise donc ce drame, l'effondrement de ce mur.
Voilà, Lou Garçon sur place à Dakar, au Sénégal. Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie. Perth maximale de 18 degrés, Adélaïde 15, Melbourne 12, Hobart 12 également, Canberra 11, Sydney 17, Brisbane 23, Cairns 28, Darwin 32 et à Alice Springs maximale de 24 degrés. Un rappel des grands titres de ce 16 juillet. Les officiels américains quittent brusquement l'île de Nauru. Le gouvernement fédéral déclare que l'accord tient et tiendra bon. La conférence du LNP, Liberal National Party du Queensland, a lieu ce week-end à Brisbane. Et puis l'Espagnol Garbiñe Muguruza gagne le tournoi de tennis de Wimbledon en battant l'Américaine Venus Williams 7-5 et 6-0.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench